renforcer le rôle propre de l'intellect agent et de l'intellect possible dans chaque opération d'intelligence. Appréhension, jugement, raisonnement pris dans l'exercice de la volonté. Puis dans l'exercice de la volonté. La dernière fois, nous avions commencé à voir ce que c'est que le jugement, cette adhésion. Je verrai ensuite le rôle de l'intellect agent. Et je voulais préciser cette question qui a été posée, pas ici, mais au cours des âges. Le rapport entre l'appréhension et le jugement. C'est évident que dans saint Thomas, il y a une petite thèse qui a été faite là-dessus, pas une thèse pour un mémoire de licence à Fribourg, qui est partielle. Ce serait intéressant d'en refaire une vraie thèse. Quelqu'un a du courage. C'est très difficile de prendre dans saint Thomas tous les textes sur l'appréhension du jugement. Et de voir quelque chose d'organique. C'est pas le but de saint Thomas. Il se sert de la philosophie. Là, il y a presque des textes contradictoires. Ils sont pas contradictoires. Mais en apparence. Vous voyez, c'est là où on voit très bien que vouloir trouver une philosophie à partir de la théologie de saint Thomas, c'est quasi impossible pour une chose aussi importante que les rapports de l'appréhension et du jugement. Parce que je crois que toutes les erreurs qui ont été émises à l'intérieur du thomisme proviennent de ça. C'est pas étonnant. C'est les deux sources de notre vie intellectuelle. Alors, où on ramène ces deux sources à une source? Alors, est-ce par rapport à la réalité expérimentée? Au son du vent, la réalité expérimentée. On l'expérimente ici. On est dans un lieu particulièrement favorable à ça. Essayez de côté. Le vent s'amuse. Excuse-moi. La réalité est expérimentée. Elle est appréhendée. Elle est jugée. Ça, deux sources. L'appréhension, le jugement. Ou bien, faire ceci. Appréhension. Jugement. Position de Occam et qui a beaucoup influencé la scolastique. Dans Jean de Saint-Thomas qui résiste à Occam, il est quand même influencé. Il ne tombe pas dans la position d'Occam. Mais, vous comprenez qu'on dira que l'appréhension, tout le monde est d'accord, nous fait saisir l'acuité. Nous fait saisir l'acuité. L'acuité des réalités. Or, le jugement est composition et division. Donc, tout simplement, j'additionne les diverses quantités et j'ai un jugement. Pierre est intelligent. proposition. Donc, appréhension de ceci, appréhension de la télévision. Et on fait la copule, l'union. Et le jugement est tout simplement une synthèse de différents jugements. C'est la position d'Occam. Et c'est pour ça que Occam, quand il veut expliquer ce qu'est le jugement d'existence, dit tout simplement que c'est cette synthèse des diverses appréhensions auxquelles est ajoutée les sensations. Et on rejoint la réalité expérimentée. Et le jugement d'existence se ramène tout simplement à datur. Je traduis, il y a une réalité expérimentée. Il résiste au son. Il y a une réalité expérimentée. Peut-être que vous n'êtes pas trop tapé pendant les cours. C'est qui là, derrière? C'est qu'est-ce qui s'occupe de ça? Vous pouvez peut-être demander, parce que c'est moi, ça ne me distrait pas, mais je vois les gens devant moi qui sont très distraits. Alors, la petite synthèse, ceci est. Vous voyez? Et donc, pratiquement, on ne touche de la réalité que l'acuité. La réalité, il y a. La réalité dans son être n'est pas touchée. On atteint les étangs. Vous voyez, Heidegger. Comme Heidegger est lié au calme. Et du reste, il le dira. Heidegger ne parle pas d'un jugement d'existence. Il dit « es gibt ». Il est donné. Il y a datur. Très extraordinaire de voir que ça continue jusque. Et Heidegger n'a jamais compris ça. Et ça provient de cette scolastique qui fait que tout simplement, il n'y a plus qu'une source. Une source. Qui saisit l'acuité. On accumule l'acuité. Et la réalité. Dans sa réalité existentielle, n'est plus atteinte. Vous voyez, le noumen de Kant, la réalité existante de noumen, on ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'on atteint? Uniquement les formes. Et je ne saisis plus l'être. Commander à côté de s'arrêter, mais au son du vent. Notre frère ne va pas jusque-là dans son pouvoir. Mais c'est moins distrayant, hein, c'est même très agréable, c'est un fond sonore. Il existe du vent. Il y a un vent. Ça vous montre bien. Alors, ça c'est la première position qui a contaminé toute la scolastique. Et on a considéré l'appréhension pour elle-même. On a dit l'intelligence connaît d'une manière abstraite. Elle connaît en premier lieu l'universel. On a fait des très grandes difficultés pour essayer de comprendre comment on pouvait rejoindre quand même le point du singulier. Tout simplement, les sensations s'ajoutent. Application de sensations. La scolastique de Jean de Saint-Thomas ne dit pas ça. Dit qu'on rejoint le singulier grâce à l'image. C'est déjà mieux, mais l'image, c'est quand même une connaissance sensible. Oui. Donc, au fond, on ne connaît pas la réalité existante. Alors, position qui est en dehors du thomisme, c'est la position de Sartre, mais qui est très ancienne, qui relève de Descartes. Il y a une parenté entre Sartre et Descartes, une grande parenté. Ils s'aiment beaucoup, ils s'embrassent. Il y aura un dialogue merveilleux si on était suffisamment, on avait le temps de pouvoir dialoguer et de jaser. On ferait un dialogue entre Descartes et Sartre. Ce serait merveilleux à faire. Faites ça dans vos loisirs. C'est pas bon. C'est merveilleux de voir ça, parce que on verrait Sartre qui, dans son prologue sur Descartes, quand il dit si Descartes vivait de notre monde, il serait athée comme moi. C'est évident, puisqu'ils s'embrassent, il faut bien qu'ils se reconnaissent tous les deux comme athées. Et si Descartes est chrétien, c'est à cause du contexte du milieu dans lequel il est. Autrement, il serait athée. Et il a un petit peu raison. Il a un petit peu raison. Parce qu'au fond, pour Descartes, les idées sont innées. Donc, ce qui est important, les idées sont innées. Qu'est-ce que c'est que le jugement? Le jugement, c'est comprendre que ces idées collent avec le réel, qu'elles existent. C'est toute sa recherche. Et alors, le jugement apparaît donc comme le premier acte de la vie de l'intelligence. Puisque les idées sont innées. Le premier acte de la vie d'intelligence, c'est le jugement. Et ce jugement doit être revenir pour savoir si la signification des idées qui est innée existe. L'application des idées à la réalité. Chez Sartre, il le dit textuellement. Il rejette cette appréhension. Descartes ne fait pas ça. Il ne lutte pas contre ça. Tandis que Sartre lutte directement contre l'appréhension. Assimilation. Et il dit que c'est le jugement qui est l'opération propre de l'intelligence qui consiste à embrasser l'arbre. On se jette dessus. On l'aime. Connaître, juger, c'est embrasser. Donc vous voyez, c'est l'adhésion. On adhère et toute la vie de l'intelligence se ramène au jugement. Il n'y a plus d'appréhension. S'il n'y a plus d'appréhension, il y a un jugement qui consiste à adhérer à la réalité. Et cette addition à la réalité se fait ou par des idées innées ou par des formes a priori. Et chez Descartes, chez Sartre, elle se fait par le fait que l'intelligence désire rejoindre le réel. Dans une situation particulière, il n'explique pas très bien tout ça. Puisque la négation est première, c'est grâce à la négation. C'est par la négation, puisque le premier jugement, c'est un jugement négatif. Le jugement négatif permet à l'intelligence d'être libre et de pouvoir se développer par elle-même. Et donc ce qu'on cherche, c'est la cohésion. La cohésion entre les différents aspects, qu'il n'y ait pas de contradiction. On évite la contradiction. très bien. C'était Dominique qui disait ça, je ne cite pas parce qu'il est vivant. Il disait, au fond, le discours philosophique, c'est uniquement chercher que ce discours soit logique, cohérent, qu'il n'y ait pas de contradiction. Mais tout vient de l'intelligence. Au fond, on se sépare, on est dans l'abstraction. On est philosophe. On est dans la zone des principes, dans tout ce qu'on veut construire. Et au fond, je crois que ça, c'est très, très dans le contexte actuel. La philosophie est un peu comme un point de vue artistique, avec la seule différence, c'est que l'artiste est obligé, lui, de réaliser dans le sensible. Et lui, on fait un art dans les idées. C'est l'intuition, les connexions. Et au fond, c'est l'intuition qui remplace le jugement d'existence. Et c'est uniquement à l'intérieur de... On évite la contradiction et on est commandé par l'intuition. Et je crois que même chez Sartre, ce sera l'intuition qui naîtra de la négation et ce sera l'intuition qui sera la vie d'intelligence. Ce sera même à ça. Et voilà les deux grandes positions devant lesquelles on se trouve aujourd'hui. Je crois. Un succès d'année de scolastique orcamienne et intuition à partir des idées nées de Descartes. Donc un idéalisme. Il n'y a plus la distinction des deux opérations où tout se ramène à l'appréhension. Ramène au jugement. En face de ces deux positions, essayant de comprendre la troisième position, qui, je crois, est la position d'une intelligence qui cherche la vérité. C'est pas pour rejoindre Aristote. Aristote pose le problème très différemment de nous. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons poser le problème de cette manière-là. Parce que ça, c'est historiquement, c'est comme ça que ça se pose. De fait, c'est comme ça que ça s'est développé dans l'histoire. Un Hamelin n'a plus que l'intuition. Un Bergson, l'intuition. Un Sartre, l'intuition. Il n'y a plus que ça. Et l'intuition, c'est quelque chose que nous découvrons au-dedans de nous-mêmes. Et je dirais, Heidegger, penser l'être, c'est l'intuition. Avec un souci de rejoindre le réel. Et l'être est pensé au-dedans de l'intelligence. L'être naît à partir de l'intelligence, donc d'une façon intuitive. Et on essaie ensuite de voir si cette intuition est différent comme manière de penser. Si j'essaie de comprendre troisième position, je dirais l'appréhension détermine l'intelligence et l'appréhension regarde la fluidité des choses sensibles. Tandis que le jugement, et ça, saint Thomas le dit expressément, le jugement regarde l'exou. existe. Et l'individu est inévitable. Il est au-dessus de toute assimilation. Je ne peux donc qu'y adhérer, le toucher. Tingen, comme dira Aristote, le toucher. Le montrer, mais le montrer pas de l'extérieur. Le toucher intérieurement. Il y a donc un acte nouveau de l'intelligence, irréductible à l'appréhension, qui est l'acte parfait de l'intelligence. L'intelligence n'est parfaite qu'en adhérant à l'exister de la réalité. L'exister de la réalité qui n'est pas l'acuité, qui est au-delà. L'acuité. Je crois que ceci correspond à l'expérience. Vous pouvez poser un jugement d'existence. Quand vous posez un jugement d'existence, votre intelligence touche le réel existant. Ceci est en vous servant des sensations. C'est bien évident. En vous servant du toucher, c'est bien évident, mais sans être déterminé par l'acuité. Votre intelligence est spécifiée alors par l'exister même de la réalité. Ça, c'est capital à comprendre. C'est ça qui spécifie mon jugement. Je passe par l'intermédiaire de l'acuité. Mais je la dépasse pour atteindre autre chose dans le réel. Ce n'est plus la forme, ce n'est plus les déterminations. C'est là l'exister même de la réalité qui est atteinte, à laquelle j'adhère. Ou au contraire, à laquelle je n'adhère pas. Ceci est, ceci n'est pas. Le jugement d'existence exprime donc d'une manière parfaite ce que l'intelligence qui juge atteint, ceci est. Je mets tout l'accent sur « est » et non pas sur « ceci ». C'est important de voir les deux. Hein. Dans une perspective occamienne, on mettrait tout l'accent sur « ceci ». Dans une perspective thomiste de saint Thomas, on met tout l'accent sur « est ». Alors je me pose la question, comment cela peut-il se faire? Et c'est en posant la question du comment que je découvre le rôle de l'intellect agent. J'ai vu en premier lieu que le rôle de l'intellect agent était de faire passer l'image, la représentation à la signification. Je passe de l'image à la forme intentionnelle. Et la forme intentionnelle signifie. Ici, mon intelligence assimile l'acuité. Mais l'intelligence, dans son appétit propre, ne s'arrête pas à l'acuité. L'acuité, c'est très intéressant, mais c'est pas ça qui est le bien de l'intelligence. Le bien de l'intelligence, c'est la vérité. Et pour qu'il y ait vérité, il faut que l'intelligence puisse rejoindre le réel, existant, et que je puisse l'atteindre directement, comme quelque chose ce que j'ai assimilé comme quelque chose d'autre que je connais. Et je peux alors à ce moment-là confronter le vécu et le réel. Le vécu d'intelligence, c'est ce qui est assimilé, et le réel, c'est ce qui est atteint dans le jugement d'existence. Comment se fait ce dépassement de l'acuité? L'acuité provient de l'image. l'image provient des sensations. Et les sensations me mettent en contact direct avec la réalité expérimentée. Je peux donc comprendre que l'intellect agent, qui est ce qui pousse l'intelligence à aller jusqu'au bout de la connaissance, l'intellect agent n'a pas uniquement comme rôle d'abstraire l'acuité de l'image, mais l'intellect agent a un rôle encore plus important de pousser l'intelligence dans son appétit fondamental à découvrir ce qui est, en se servant de l'acuité, en se servant des sensations, pour atteindre le réel tel qu'il est, sans abstraction. L'intellect agent le peut. Elle met en pleine lumière, l'intellect agent met en pleine lumière l'être en acte dans l'essai, et fait que l'intelligence à ce moment-là est avide de toucher, d'atteindre cet être en acte comme étant ce pourquoi elle est faite. Elle est faite pour atteindre l'être en acte plus profondément encore que d'atteindre l'acuité. Elle atteint l'acuité pour atteindre cela. L'intelligence est déjà déterminée par l'acuité. Et étant déterminée par l'acuité, elle est capable de dépasser l'acuité, puisqu'elle est assimilée, pour atteindre ce qui est à l'origine de cette acuité, ce qui était saisi au point de départ de cette acuité. La réalité expérimentée. Et cette réalité expérimentée est éclairée par l'intelligence d'une façon telle que l'intelligence peut saisir, toucher dans la réalité ce qui est. Ceci me permet de comprendre comment l'intellect agent est vraiment ce qui permet à l'intelligence d'atteindre dans un appétit naturel l'appétit de ce qui est, l'appétit de l'être, d'atteindre cet être en acte. Alors je peux comprendre à partir de là l'adage de saint Thomas: primo cadit in intellectus ens. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, donc ce que l'intelligence saisit en premier lieu, c'est ce qui est. Ens, ce qui est. C'est pas l'acuité. C'est ce qui est. L'acuité est saisie, c'est très vrai, mais elle est dépassée. Et l'intelligence ne s'arrête jamais à l'acuité. Sauf si je réfléchis sur ma vie intellectuelle, alors je peux m'arrêter à l'appréhension. Autrement, je ne m'arrête pas à l'appréhension. L'appréhension est totalement ordonnée au jugement. Et je peux alors, à partir de l'acuité, qui actue mon intelligence, donc qui la rend capable d'atteindre, grâce à l'intellect agent, l'ipsum esse rei, l'existé de ce qui est. Vous voyez comment on peut analyser le jugement d'existence et mettre en pleine lumière cette capacité propre de l'intelligence toucher la réalité existante. Au-delà des sensations, c'est l'intelligence qui saisit l'être en acte, qui le touche. Au-delà de l'acuité, donc elle saisit cela, mais en se servant de l'acuité. C'est donc non pas une addition de jugement, une addition d'appréhension. Le jugement propre, c'est vraiment un acte propre de la vie intellectuelle qui dépasse l'appréhension, qui dépasse les diverses appréhensions pour être en contact direct avec ce qui est. Vous allez me dire, mais ça, vous construisez ça. Non. J'explique l'expérience du jugement d'existence. Le jugement d'existence est un fait. Je n'ai pas à le justifier. J'ai expliqué que c'est normal pour l'intelligence de chercher à être en contact direct avec ce qui est. C'est ça qui l'intéresse en premier lieu. L'intelligence n'est pas satisfaite de l'acuité. Elle ne peut pas être satisfaite parce qu'elle recherche en premier lieu ce qui est ens, l'être. Si elle ne cherchait pas en premier lieu, elle ne le trouverait pas en dernier lieu. Il faut qu'il soit présent et qu'il faut qu'il soit au-delà de l'acuité. Parce que l'ens, comme tel, l'être, a-t-il une signification propre? L'acuité a une signification, mais l'être a-t-il une signification propre? Non. L'être est tout de suite donné dans la diversité des formes. Donc, je ne peux pas appréhender l'être au sens strict. Je ne peux pas l'assimiler. Et cependant, il y a un concept d'être. Alors voilà la difficulté que Heidegger a très bien sentie. Puisque Heidegger dit, il n'y a pas de concept d'être. Alors, y a-t-il un concept d'être? Y a-t-il une appréhension de l'être? Tel quel jugement d'existence? L'être est atteint. Puisque l'être est atteint par l'intelligence et que tout acte du jugement implique une appréhension, il y a donc dans le jugement d'existence une certaine appréhension de l'être. Et donc un certain concept d'être, un concept analogique. C'est-à-dire un concept inséparable de tous les modes particuliers, de toute la diversité des modes. Je ne peux pas isoler la ratio entis de ces modes. Et donc c'est un concept très imparfait. Et la signification de l'être se donne tout de suite dans la signification de tous les prédicaments. La signification de l'être, c'est la substance, c'est la qualité. C'est la quantité, c'est la relation. Tous les prédicaments. Je ne peux pas isoler la signification de l'être de ces différents modes. Si j'isolais la signification de l'être de ces différents modes, je retrouverais une signification générique de l'être, ce qui serait fausse. Parce que l'être n'implique pas de genre. Mais c'est assez particulier de saisir ça. Eh bien, c'est la seule chose qui permet de répondre à toutes mes expériences. Autrement, je ne réponds pas à mes expériences. Et là, je vois bien qu'il y a un toucher particulier de la vie d'intelligence sur ce qui est. Et ce qui est implique justement ce point de vue-là. Je vais critiquer maintenant les deux autres positions pour montrer qu'elles ne correspondent pas à l'expérience. La position d'Occam. Donc, qui est la position dominante. Et qui va, je vous dis, à travers la scolastique. Et qui va jusqu'à maintenant. On a fait de l'appréhension une opération séparée, pas seulement distincte, mais séparée du jugement. Et on a considéré que le jugement était la somme des appréhensions. Si je prends cette position, je n'explique pas le jugement d'existence. Ceci. C'est bien, c'est un signe. Le langage est un signe. Mais je peux vraiment penser ce jugement d'existence, ceci est. Le ceci qui est Pierre est un nom existant, concret. Ceci, je peux le montrer. Ceci, c'est cette table. Ceci, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici, je montre. C'est un nom. Telle personne. Tel individu. Le ceci. Comment va-t-il naître et apparaître dans l'intelligence? Puisque je saisis en premier lieu l'acuité. Quel est le lien entre l'acuité et le ceci? Ça, il faut l'expliquer. Et je ne l'explique pas par l'accumulation d'acuité. Le ceci a son originalité propre. J'ai beau accumuler l'acuité, j'atteindrai jamais le ceci. Occam y sentir très simplement. Le ceci, c'est la somme de tous les accidents. Ceci, je le saisis par l'être. qu'est-ce qui spécifie le jugement? C'est pas le souci. C'est l'ipsum esse rei. Vous voyez comme saint Thomas est précis. Il dit pas que c'est la res. L'ipsum esse rei. Donc, c'est par l'essai que je transforme l'acuité en ceci. C'est très extraordinaire, ça. C'est l'être de est, l'être en acte, atteint par le jugement, qui va me permettre de comprendre le lien entre l'acuité et le ceci, qui est le point de vue concret. L'acuité reste toujours liée à l'image. Et l'image est toujours singulière. Et donc, par le ceci, par et, je réunis, je reprends l'acuité à son origine. Et donc, par là, je redécouvre le ceci. Le ceci, c'est le pose, l'acuité. C'est la manière dont l'acuité existe. Et c'est cette manière d'exister de l'acuité que je saisis par l'être. Et c'est là où je comprends la nécessité de l'intellect agent.